de la jeunesse communiste. Voilà. J'ai toujours connu Alain très combatif, très déterminé, plein de vie, qui prenait souvent part aux grands mouvements de lutte de cette époque. C'était déjà un personnage, plein d'humanisme et le cœur sous la main. Ce que l'on retrouve bien forcément dans toutes ses chansons. On a eu l'occasion, il a reçu la médaille d'honneur de citoyen d'honneur de la ville de Rouen. Et l'énorme plaisir pour nous, communistes, c'est qu'il a beaucoup insisté pour, avant de partir en mairie recevoir cette médaille, il a beaucoup insisté pour venir nous voir chez nous, les camarades de la fédération du Parti communiste. Et c'était pour nous un réel plaisir de le retrouver dans notre maison. Voilà, c'est tout simple.
Merci Evelyne. Une petite pause musicale maintenant ?
Alors une petite pause musicale puisque Evelyne vient prendre la parole et Alain avait écrit une chanson que vous connaissez bien évidemment. Il semblerait que ce soit une histoire de sacré coco.
Musique de Didier Dervaux. Non, 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 de Romain Didier. Je savais bien qu'il y avait du Didier là-dedans.
Chacun dans ses parents poussait son lourdeau en gueulant pour Vanzetti et pour Sacco. Il a grandi sous une banderole, entre une affiche et un saut de colle, la moindre manif, illigo, Sacré Coco. 70 piges et des poussières qu'il balait chaque anniversaire avec les miettes et les mégots. Comme il dit, je suis un dinosaure, on cherchait pas le même trésor, c'est là qu'on n'est pas ex-aequo. Sacré coco. Il dit aussi, j'aurais craché, même si j'étais haricotier, je bosserais pas pour des haricots. Et si ça arrange leurs affaires, demain pour la classe ouvrière, je porterai des godasses en croco. Sacré coco. Il dit, même pour les non-voyants, il faudrait écrire les slogans en braille sur les calicots. En classe, il a pas été loin, mais il connaît sur le bout des poings Cézanne, Beethoven et le père Hugo. Sacré coco, on rentre chez lui sans frapper, là où c'est écrit j'aime la paix, au 36 rue de Coquelicot. On sirote un alcool de fruits, en rigolant il dit que chez lui c'est le temps des cerises en bocaux. Sacré coco, on chante la jeune garde à tue-tête, quand c'est que des fois sous sa casquette souffle un vieux coup de sirocco. Et le lendemain sa gueule de bois sur c'est la faute à Paris-Bas, c'est y'a Monopolanco. Sacré coco. Pour la castagne, il crie d'accord. Pour la fiesta, il crie d'abord. Et pour le cul, il crie banco. Il dit encore, s'il fait froid, lutte à l'envers, lutte à l'endroit. Se battre, c'est se faire son tricot. Sacré coco. Y'a pas de sang culotte au ciel. Comme il dit, je suis pas éternel. D'ailleurs, Dieu, c'est du rococo. Quand je serai mort, juste un bouquet rouge, des chansons et des gens qui bougent, pour que le vent reprenne en écho. Sacré coco.
Autant pour moi, ce n'est pas non plus Romain Didier qui a écrit cette musique, mais Gérard Pierron. De toute façon, auprès de Corrige, c'est bien connu. Donc maintenant, on en est venu au moment où peut-être on va se tourner vers la famille musicale, culturelle, la famille d'Alain, la famille rouennaise d'Alain. Et peut-être on va commencer par... Allez, qui veut ?
Je ne sais pas si c'est bien ou c'est pas bien, mais puisque tu as parlé du presque frère, est-ce que Didier, tu nous retracerais un petit peu ce qu'était ?
Je te passe le micro. Je ne vais pas faire dans la dramaturgie, bien entendu. En même temps, Ça ne peut être que des petits clins d'œil, des petites anecdotes que j'ai pu vivre avec Alain Lepresse, puisque on a vécu. Enfin bon, c'est d'abord Alain Lepresse, c'est d'abord une rencontre faite au niveau de l'atelier chanson de Maxime Gorki. L'atelier de chanson de Maxime Gorki était un lieu extrêmement dynamique en termes de création, dans la mesure où tous les auteurs, compositeurs, gratteurs de musique, etc., se rencontraient, animés par un couple qui s'appelait Annie et Didier Desgremont, qui chantaient eux-mêmes. Et Annie, je vois qu'elle est présente aujourd'hui. Ça a été vraiment un lieu magique où j'ai pu rencontrer le talent d'Alain Leprest. Tout le monde, bien sûr, était jaloux de son écriture infernale. C'était plus que beau, plus que tout. On pouvait mettre tout de petit cœur. Jamais on pouvait arriver à la cheville de l'écriture d'Alain, qui était au-delà de tout. Hein, il faut bien le dire. Par contre, ce qui était très dynamique dans cet atelier chanson de Maxime Gorki, qui a changé de nom, qui a changé de présidence, qui a changé de... Voilà. Donc, qui a changé de tout court, et vraiment plus court. Donc, que dire que cette dynamique qui a bousculé nos vies, Alain et moi-même, ça a été la rencontre, ça a été le bonheur d'être ensemble. J'ai chanté Alain Lepresse à l'époque où mon embonpoint était suffisamment plus moins important et qui me permettait encore d'avoir l'audace de monter sur scène pendant quelques années et de pouvoir chanter Alain Lepresse sur des musiques de Bertrand Lemarchand, d'Elisabeth Absalep, de tous ces gens. Parce que à cette époque-là, Alain ne souhaitait pas trop, à part deux trois chansons qu'il chantait lui-même, il n'osait pas trop vouloir aller beaucoup plus loin dans la chanson. Mais il avait fait un spectacle avec Stéphane Rio, justement, Étienne Goupil, Fabrice Plaquevent. Ça a été vraiment la rencontre à Saint-Étienne-du-Rouvray. Et après, donc, ça a été la rencontre entre lui et moi. À cette époque-là, Alain n'avait pas beaucoup d'argent, on lui avait coupé son électricité. Et je l'avais invité avec Mathieu et Sally. Sa compagne de traversée, comme il disait, à venir à la maison. Ça a été 9 mois de bonheur absolu, de richesse d'écriture, dans la mesure où lui et moi, pour le coup, on s'accrochait aux mots, aux papiers vides, et on n'arrêtait pas de la nuit, on n'arrêtait pas d'écrire, de boire des coups, d'écrire, etc., allant même jusqu'à faire quelques bars le soir, accompagné de Bertrand ou de lui, de sa guitare, pour nous faire un petit peu d'argent de poche et pouvoir tendre la casquette. C'était des moments très, très importants. Et nous allions, le bateau ivre a été extrêmement aussi important pour nous, puisqu'il a été très, très reconnaissant. Michel Adjinsoff a accueilli beaucoup de monde de la chanson de Rouennaise dans son lieu. Et nous allions les doigts, nous allions à l'entrée de Paris-Normandie à 5h du matin ou 6h du matin après une nuit d'écriture pour aller voir ce qu'on avait marqué sur nous, sur nos petits concerts réciproques, les doigts tachés pleins d'encre et qu'on rentrait à la maison. Un jour, il avait dit à Mathieu, mais Mathieu s'est élevé pour faire un petit pipi et puis... nous étions toujours en train d'écrire et Alain, spontanément, s'est levé, a fait son petit déjeuner comme si c'était le matin, avant qu'il aille à l'école, juste avant. Et hop, il a donné son petit déjeuner. Du coup, Mathieu, tout étonné de voir son petit déjeuner arriver à 5h du matin, alors qu'il s'était juste levé pour faire pipi, s'est retrouvé mais bon, un petit peu perdu. Voilà, ce sont des petites anecdotes, mais qui ont beaucoup marqué ma vie. C'est pour ça que je souhaite aussi les faire partager. Je sais à quel point il vous aimait beaucoup, Colette Privat, ça je le sais, il m'a raconté énormément de choses sur vous. Quant à Francesca, le disque que vous avez fait suffit à lui-même, je me rappelle très bien, accompagné par Bertrand aussi. Ça a été plein de choses, Alain Lepresse, ça a été des rencontres avec Sally, sa compagne, ses enfants bien sûr. Et j'ai démarché beaucoup pour Alain Lepresse. On me faisait sortir par la porte, je rentrais par la fenêtre. Et un jour, Gérard Metz a appelé en disant écoutez, j'ai reçu, parce qu'en fait, je vais être très court, je vais essayer d'être plus court, mais en même temps, je ne peux pas passer à côté de ça parce que c'est le début d'Alain Lepresse dans la chanson. Je lui avais dit, écoute, chante 3-4 chansons, on va le faire sur une petite cassette pourrie, mais ça fait rien, les gens vont entendre tes mots. Et donc, il avait fait ça, il venait d'arriver à Paris dans un petit studio, Passage Courtois, et il avait le pied sur une chaise et il grattait sur sa guitare. Il avait chanté 20 ans, il avait chanté Je et les gosses, il avait 3-4 chansons, 4 chansons. Donc, c'est avec ces mini crassettes, comme il osait le dire aussi, que j'ai démarché auprès de pas mal de maisons de disques, dont Gérard Metz, qui ont trouvé ça incroyable et culotté que quelqu'un puisse arriver dans la maison de disques avec une petite cassette pourrie, mais avec des mots de géant à l'intérieur. Et donc, Gérard Metz, 8 jours après, écrivait à Alain ou téléphonait à Alain en lui disant « Écoutez, il faut qu'on se voit, Jean Ferrat veut faire une musique dessus, ça a été le début. » Et puis aussi une chanson pour Juliette Gréco qui a pris le pull au vert et sur une musique de Jean Ferrat. Voilà, donc après ça a été la continuité sur Paris. Et puis depuis un suivi permanent, des rencontres permanentes avec lui bien sûr, et puis un amour infini et une peine infinie quand il a décidé de rejoindre le petit cimetière comme il l'avait demandé au maire. M'autoriserez-vous à faire une petite place pour moi dans votre joli cimetière de Montmousseau? Voilà, merci.
Merci, merci Didier. De ce témoignage.
Alors, en poursuivant un petit peu, c'est vrai que c'est un regard un peu dans le rétroviseur. Bertrand, peut-être qu'également.
Je ne sais pas trop par quoi commencer. Mais je suis musicien et pas chanteur ni auteur. Et donc, j'ai souvent des difficultés à dire les mots. Je voudrais juste dire en fait que j'ai rencontré Alain aussi à l'Atelier Chanson, comme Didier, quand j'étais tout jeune. Et par la suite, je suis allé à Paris un an après Alain. Je l'ai suivi d'un an et je suis allé le voir un jour par hasard chez lui pour lui dire bonjour. Il m'a dit, écoute, tiens, je joue au Bateau Ivre rue Descartes pendant un mois et au Caveau de la Bolée, ça serait bien que tu m'accompagnes. Donc on a monté une demi-heure de répertoire. Et puis, on a joué ensemble pendant 8 ans. Voilà. Et je retiendrai une... Bon, il y a plein d'anecdotes de tournées. Je n'ai pas assez de temps pour en parler. Mais... Et d'autres que je ne pourrais pas dire, d'ailleurs, en public. Mais simplement une image d'Alain que j'ai gardée. C'est Alain en train d'écrire à sa table. À la table de sa cuisine, parce que Didier disait tout à l'heure qu'il n'avait pas, quand il était à Petit-Quevilly, il n'avait pas d'électricité, mais Passage Courtois aussi, il s'était fait couper l'électricité. Et donc, il était à sa table avec un stylo, une feuille de papier où il écrivait les chansons, sur lesquelles il écrivait sa chanson, et une bougie. Une bougie allumée près de lui et son verre de rouge. Voilà, et c'est l'image que j'ai gardée d'Alain. Plusieurs soirs, quand je venais le chercher pour aller jouer au Caveau de la Bolée ou dans les autres cabarets, j'ai retrouvé cette image. Voilà. Merci.
Merci Bertrand. Et alors, maintenant, je vais donner la parole à Francesca Solville, peut-être, non ? Francesca Solville.
Un autre regard sur Lepresse.
Dont on a dit que les textes qu'elle avait écrits pour elle avaient été sublimes, mais que elle les avait aussi sublimés.
Oh, merci. Non, mais... Bon, moi, j'ai eu la chance qu'il me saute dessus, Alain, à la place d'Entraigues. Et c'était en 90, 91. Je ne le connaissais pas. Et il m'a dit, voilà, j'aime beaucoup comment tu chantes. Je vais t'écrire 2 chansons. Et moi, je lui ai dit non. Il était tellement beau que je lui ai dit 12. Alors, Alors bon, je connaissais pas du tout ce qu'il faisait. Et puis alors il m'a dit bon, ben on ira chez Gérard Piron. Alors je l'ai invité chez moi en Ardèche. Bon, il était, je lui ai fait des pâtes et on a décidé d'aller chez Gérard Piron. On y est allé 4 jours et pendant 4 jours, ils m'ont écrit 12 chansons. Voilà, j'ai eu une chance extraordinaire. C'était des chansons magnifiques. Il suffisait qu'ils sachent que mon grand-père était garibaldien et tout ça, un Italien, etc. Je lui disais que ma mère était morte l'année avant. Il m'écrivait Sarma. Il m'a écrit des chansons d'une beauté extraordinaire. Ce qu'il y avait d'extraordinaire avec Alain, c'est qu'on n'avait pas besoin de lui parler. Il comprenait immédiatement par le regard. Et c'est pour ça qu'à son enterrement, j'étais tellement surprise par la quantité de gens qui ne connaissaient pas vraiment. Enfin, on dit, on ne connaît pas, on rencontre. Mais des gens qu'on rencontre comme lui, il y en a très, très peu. Parce qu'il est complètement à l'écoute. On dirait qu'il rentre dans votre cœur et qu'il sait exactement ce que vous pensez de ce qui se passe en ce moment pour vous. Et après, je veux dire, on n'a jamais arrêté de se voir. Il m'a réécrit 12 chansons. J'ai fait un spectacle entier à Toulouse et avec ses chansons qui s'appelaient Al Dente, parce que c'était italien. Bon. Et puis voilà. Et je dois dire que là, bon, il a continué à m'écrire des chansons avec Ferrat qui me mettait des musiques. Et puis voilà, il est mort cet été en Ardèche, à côté de chez moi. Et il m'a quand même écrit 3 chansons nouvelles en mois de juillet, dont une, la dernière, qui aurait dû me faire sauter en l'air parce qu'il décrit exactement ce qui va se passer, quoi. Voilà, Alain, pour moi, ça a été un homme qui m'a redonné vie dans le moment où j'étais de la chanson, où j'étais quinquagénaire, ou je sais pas quoi, ou sexagénaire, je me souviens plus. En tout cas, j'étais dans une des... Maurice Fanon était mort, tous les copains de cette génération-là étaient partis ou quoi, et il m'a redonné le goût de ressortir dans des cabarets, d'aller voir des jeunes et de continuer ainsi à faire ma vie. Et je l'en remercie tellement, voilà.
Merci Francesca. Je pense que nous reviendrons vers toi tout à l'heure ou que nous aurons l'occasion de parler de ton actualité. C'est important. J'aurais voulu me tourner maintenant vers Annie Desgremont, qui a peut-être et même certainement des choses à nous dire de cette époque de l'atelier de la chanson de Gorky.
Oui, sur l'atelier, je crois que tout a été dit par Didier. Mais moi, il me reste deux choses dans la tête. L'une qui m'émeut, l'autre qui me fait beaucoup rire. Je me souviens de ces nuits qu'on passait à l'écriture, à chanter chez moi. Et je revois Alain sur la table de la cuisine avec son verre de vin, écrivant des textes absolument incroyables. Et je me souviens en particulier de La Retraite. Il avait 20 ans quand il a écrit La Retraite. Et nous, on en avait 25. Et on se disait, mais pourquoi t'écris sur ce thème-là ? Ça nous paraissait incroyable. Et autre anecdote qui m'a fait beaucoup rire, on parlait du théâtre Maxime Gorky tout à l'heure, et Jean Joulin, le directeur de l'époque, faisait tout pour lui rendre service, parce qu'il était complètement fauché. Alors il lui trouvait des petits boulots. Et un jour, il lui a trouvé un boulot de changement de décor sur un spectacle sur scène. Et pour ça, Alain arrivant, étant visible du public, il fallait qu'il soit habillé tout en noir. Et donc, Alain, la secrétaire de Gorky était allée lui acheter des fringues noires, belles, pour qu'on puisse le voir vraiment sous son meilleur jour. Et une heure avant le spectacle, alors on lui avait donné évidemment les fringues la veille, une heure avant le spectacle, il est arrivé couvert de peinture blanche. Il avait repeint une pièce. Il est arrivé et Jean Joulin était catastrophé et la secrétaire est repartie lui acheter des vêtements. Et ça, c'était Alain. C'était le Alain un peu fou, mais qui laisse des souvenirs extraordinaires. Et bien sûr, il y aurait 1000 anecdotes, mais il y a des tas de gens ici qui l'ont connu aussi bien que moi et qui peuvent en parler.
Merci Annie.
Alors, c'est vrai, Annie, tu venais d'évoquer très rapidement Jean Joulin, qu'on a eu au téléphone avec Elisabeth, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, et il nous a envoyé un petit message que je découvre. Je viens de l'imprimer à l'instant, alors je vous le lis. Pour la mémoire d'Alain, je me souviens de toi, mec, lors de ta première venue à Gorki, ton cahier de poésie à la main, pour demander son avis au poète maison Michel Bézu. Je me souviens de toi, mec, descendant au foyer du théâtre, ta guitare sur l'épaule, pour t'inscrire à l'école de la chanson qu'animaient Annie et Elisabeth. Je me souviens de toi, mec, accompagné de tes amis extérieurs, Arthur, Paul, Louis et bien d'autres, ceux qui se bousculaient dans ta mémoire. Et ta poésie a illuminé notre théâtre à jamais. La chanson française avait retrouvé un grand poète. Les interprètes, les vrais, t'ont salué comme tu le méritais. Ton combat contre la médiocrité et le mercantilisme de la profession, ton militantisme et la volonté d'être un artiste libre sont respectés de tous. Et les deux L de ton prénom t'ont permis de t'envoler un soir d'été au paradis des poètes. Salut à toi, mec. Salut Bilou. Salut l'artiste. À toujours, Alain. Jean Joulin et le théâtre Maxime Gorki. Alors, cette émission aujourd'hui, qui est un petit peu compliquée, puis finalement se passe très bien, elle n'aurait pas tout à fait pu être ce qu'elle est sans Elisabeth, qu'on a rencontrée immédiatement. Dès qu'on a pu conjuguer les uns et un petit peu les autres, savoir qui serait là, Elisabeth, évidemment, y était. Alors, je vais te passer le micro, et puis je suis convaincue que tu as des choses aussi à dire, toi.
Oui, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites déjà. Contrairement à toi, Colette, je ne l'ai pas connu petit. Alain, je l'ai connu grand. Je l'ai connu grand, je l'ai connu au théâtre Maxime Gorki. Que dire d'Alain ? Que c'était quelqu'un d'humain, de militant et d'humble. Quelques petites anecdotes au printemps de Bourges en 85, c'est ça Bertrand ? Il a fait un tabac. On était dans la même loge, tu te souviens Bertrand ? Annie ? Il a fait un tabac et il y avait Jean-Michel Boris de l'Olympia qui l'attendait. Et on lui a dit avec Bertrand, Alain, il y a M. Boris de l'Olympia qui t'attend. Il dit, non, on va d'abord dans la loge, on va boire un coup ensemble. Vous êtes mes amis. Voilà. L'année dernière, il est venu dans notre théâtre au Petit Ouest. On avait fait un débat sur la culture pour tous, ce qui est le cas de notre théâtre, comme le cas du Café de l'Époque ici. Et avant, il était arrivé bien avant l'après-midi, il était très fatigué, et il avait assisté à quelques-unes de mes séances, dont Les Rayons de Soleil, et je suis très fière d'avoir Chloé à côté de moi ce soir, qui est ma petite fée, et qui va vous montrer quelque chose tout à l'heure. Et beaucoup de gens pensaient qu'il dormait en haut de mon théâtre, il s'était assis, mais moi j'étais sûre qu'il ne dormait pas. Et en fait, il a écouté ce que je chantais pendant mes séances, et il a écouté Les Rayons de Soleil qui chantaient Les Petits Enfants de Verre. Que dire, que j'ai pas attendu qu'il soit parti pour l'aimer et pour chanter ses chansons et pour l'accompagner. Et je voulais dire à Mako, que j'ai accompagné l'autre fois, parce que je suis pianiste un peu aussi, que celui ou celle qui a accompagné Alain peut accompagner tout le monde, parce que au niveau rythmique, et Bertrand ne me démentira pas. Voilà, mais c'est un bonheur de l'accompagner. Et quand on accompagne des gens, surtout comme Alain, mais tous les gens que j'ai eu le bonheur d'accompagner, dont Didier, qui est mon deuxième frère, voilà, on est au service de celui qui chante. Et c'est un bonheur, voilà.
Bien, je crois qu'Elisabeth, vous allez vous préparer. Donc pendant qu'Elisabeth se prépare, vous savez que maintenant, eh bien tout le monde en parle. Du New York Times à la Pravda, de Radio Rio de Janeiro à RTL, de Télé Douala à TF1, c'est à qui résumera le mieux la qualité du travail de Leprest. Ce style remarquable, cette aisance dans la rime riche, forcément, Rimbaud et Hugo n'ont qu'à bien se tenir. Le 14 août, Leprest devait prendre place aux côtés des immortels. Le 16, il devait remplacer Mitterrand à la culture. Le 20, c'était écrit dans le journal, toutes les télés devaient s'arracher Leprest. Et le 21, il entrait dans les manuels scolaires en compagnie de tous ses paroliers fabuleux qui nous donnent le verbe et qui nous rendent l'émotion. Que la télé serait belle avec des gueules de saltimbanque à 20h. Nous aurions des larmes aux yeux, des larmes de bonheur en ouvrant notre journal du matin. Nous aurions les esgourdes bien ouvertes, l'ouïe attentive, lorsqu'à l'heure de grande écoute, Leprest, Jamais, Tachant, Silvresse, Ferrat, Solville se succédant sur notre radio de service public nous ferait vibrer de bonheur. Il est 20h. Je suis devant mon poste de télé et je cherche Le Prest. Entre un pot de yaourt, une saloperie chocolatée et la dernière voiture révolutionnaire en leasing ou au comptant. Il est 20h30. Mon plus mauvais feuilleton américain, saison 23, débute. Le héros ne ressemble pas à Le Prest. Pas de clope au bec, pas de bouteille de picotin sur la table. J'ai dû me tromper de chaîne. À moins que ce soit vraiment complètement con, ce que je viens de vous dire. Pourtant, Le Prest est bien immortel. Mais c'est à Ivry qu'il est visible. Pourtant, Solville est bien une immense interprète. Pourtant. Non, ce soir, il n'y a que des conneries à la télé. Ah, papa, maman, ah, auditeur, quelle peau nous aurions eue. Et c'est tant pis pour aujourd'hui, on verra bien demain. Quant à vous, baudruche, mayonnaise, médiocre de toute plume, resquilleur de l'immortalité, passez votre chemin. Alain Le Prest est immortel, nous l'aimons. Merci à Tachan, bien sûr.
On va entendre les petits enfants de verre. Mes rayons de soleil n'ont pas tous pu venir. J'en ai 5. J'ai le grand bonheur d'en avoir 5. Il y a Chloé, ma petite fée, qui est là. Les autres n'ont pas pu venir. Mais lui, Alain, quand il était dans mon théâtre, il les a vus tous les 5. Tant pis pour vous.
Il n'y a pas que sur terre les petits enfants de verre, il y a aussi des fois les petits enfants de bois, les petits qu'on attache au pan de leurs tâches et qui vieilliront bonnets d'un au front. Il n'y a pas que sur terre les petits enfants de verre, il y a aussi des fois les petits enfants de bois. Y'a pas qu'elle au monde, les petites feuillettes blondes, les petits pulls à rose qui s'engueulent en prose. Faut pas oublier les petits en papier, les petits au charbon et sur carton. Y'a pas que sur terre les petits enfants de verre, y'a aussi des fois les petits enfants de bois. On dirait qu'il y a que les petits au sang bleu, les petits puis la chance, 3 mois de vacances. Il y a des fois aussi les petits montent tout gris qui fument en cachette l'avenir qui les regrette. Il y a pas que sur terre les petits enfants de fer, il y a aussi des fois les petits enfants de bois. Qu'elles sous le ciel, les tartines de miel, les petits gna 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 qui sucent du nougat. Y'a des fois encore des petits enfants morts, y'a des fois toujours des petits morts d'amour. Y'a pas que sur terre les petits enfants de fer, y'a aussi des fois les petits enfants.
Bien, donc un autre moment fort de la vie d'Alain a certainement été le festival de Barjac. Francesca, peut-être tu peux nous en dire un mot. Et puis on a aussi Eric, qui est un assidu du festival de Barjac et qui peut nous dire comment il l'a vécu. Et puis bon, Bertrand, les autres, enfin, je veux dire tous ceux qui ont participé ou vécu ce moment fort.
Eric.
On commence par Eric.
Alors, oui, Barjac, on y est allé plusieurs étés. On a vu Alain plusieurs fois à Barjac, parfois parce qu'il il donnait un récital seul, parfois parce qu'il accompagnait, il venait rendre visite à ses amis, à Francesca, par exemple. On l'a vu aussi à Isaac, pour le petit festival d'Isaac, voilà, donc en Ardèche encore. Alain... je me souviens de lui, son dernier récital à Barjac, c'était en juillet 2010. Nous arrivions toujours un petit peu plus tôt avec nos amis pour flâner dans les rues de Barjac, pour rencontrer Francesca aux terrasses des cafés, pour... on allait aussi au château, là où avaient lieu les...